On est maintenant avec Daniel Jean, qui est directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Bonjour, Monsieur Jean.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
C'est un plaisir pour nous aussi. Comment ça va?
Ça va très bien.
Monsieur Jean?
On a beaucoup de choses sur le poil, comme on pourrait dire. Puis aujourd'hui, bon, on va parler des femmes violentées.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un sujet très très heureux, mais malheureusement, il faut en parler. Les femmes violentées qui ont une situation de handicap, malheureusement, c'est très commun. Les femmes qui ont des situations de handicap sont beaucoup plus à risque d'être dans des situations de violence. Et les organismes pour les aider sont beaucoup moins présents que ce qu'on a besoin. Donc, on a beaucoup plus de demandes que d'offres, finalement.
C'est ça, on a produit une étude récemment qui vise à documenter la situation, c'est la violence entre partenaires intimes vécue par les femmes avec incapacité au Québec. Ça a été produit en 2023. Puis ce que ça nous permet de voir, c'est que chez les personnes vivant en situation de handicap, bien, il y a une plus grosse prévalence, dans le fond, presque du simple au double, de risque de vivre des situations de violence, soit économique, de violence physique ou même sexuelle.
Oui, donc forcément, là, c'est des gens qui sont peut-être plus vulnérables à ce type de violence, particulièrement parce que il y a peu de portes de sortie. Donc, pour ces femmes-là, quand elles sont dans des situations difficiles et qu'elles voudraient sortir de la maison, ça peut être beaucoup plus difficile, ne serait-ce que parce que trouver un emploi est plus difficile, trouver un centre d'hébergement qui est adapté est plus difficile, être économiquement autonome, ça peut être plus difficile également. Évidemment, ça dépend, c'est du cas par cas, mais les chiffres nous montrent que lorsque c'est le temps de sortir d'une situation qui ne nous convient plus, ça peut devenir très compliqué quand on a une situation de handicap.
C'est ça, c'est que dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut changer notre façon d'aborder la question. Les personnes qui vivent avec des incapacités sont des personnes à part entière, qui ont les mêmes droits que tout le monde. Et on a souvent eu un réflexe de surprotection, un réflexe de vouloir faire à la place de l'autre. Ça allait aussi loin que jusqu'à récemment, là, il y avait... moi, je travaillais au niveau de l'assistance sociale à une certaine époque, puis on a changé le programme Revenu de base où tant qu'il y a un couple, les deux conjoints recevaient le chèque. Pas un chèque unique pour la famille, qui souvent allait au niveau du mari, mais là, vraiment un chèque individualisé pour chaque membre du couple. Ça, c'est un geste très concret pour redonner de l'autonomie financière à chacune des personnes, puis leur donner un pouvoir d'agir. Mais vous avez raison, l'enjeu, c'est de changer notre rapport avec les personnes qui vivent en situation d'handicap.
Il faut arrêter aussi de vulnérabiliser ces gens-là, c'est-à-dire de penser qu'elles sont dépendantes des autres. Et ça aussi, là, ça joue beaucoup. Et tu sais, on en a parlé beaucoup à Sans détour dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Vous avez sorti un rapport, vous l'avez dit dernièrement, mais ça fait plusieurs articles, plusieurs rapports qui sortent dans les dernières années par rapport à cette situation-là. Et entre autres, un des problèmes, c'est que la personne en situation de handicap est souvent accompagnée de son mari, de sa conjointe ou de son conjoint, ce qui fait que pour elle, c'est beaucoup plus difficile de verbaliser les problèmes à quelqu'un, donc que ça peut être un médecin ou un intervenant, parce que la personne est toujours avec elle. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça devient beaucoup plus difficile de sortir aussi.
Oui, on le voit notamment du côté des personnes qui ont des incapacités auditives. L'interprète est souvent un membre de la famille, puis quand la situation à risque vient du membre de la famille, on est un peu pris en otage. Même dans les autres formes d'incapacité, les gens souvent ont besoin d'un soutien, d'aide. Souvent, le membre de la famille ou le conjoint va jouer comme rôle de proche aidant,
oui,
d'une certaine façon. Donc, la personne handicapée, moi j'en ai connu, j'ai un lourd passé étant plus vieux que la moyenne. Dans le fond, j'ai connu des personnes qui vivaient en couple et qui, avec des incapacités, disaient « mais si je fais le choix de partir, c'est pas aussi simple que d'autres personnes, parce que d'une part, faut que je m'assure d'avoir un endroit adapté où rester, parce que souvent l'endroit où on reste actuellement, c'est adapté, le nouvel endroit pour fuir la situation, c'est pas nécessairement quelque chose d'acquis. Les maisons pour femmes violentées sont en train de s'adapter au fur et à mesure, mais c'est pas à 100% dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est pas nécessairement un refuge qui est facilement accessible. Des fois, juste pour se déplacer, ça demande une logistique. C'est clair qu'il y a des initiatives qu'il faut souligner, je pense à Laval, au niveau du transport adapté. Oui. On va prioriser les déplacements des femmes violentées ayant avec incapacité parce qu'on constate que c'est majeur. Ça, on doit saluer ce type d'initiative-là, mais il faut que ça s'étende à l'ensemble du Québec. Mais on voit, même si la personne qui vit la situation est comme tout autre citoyen qui vit une situation de violence, on voit pas trop se venir quand ça nous arrive en pleine face, on sait pas trop comment réagir, mais en même temps, on a moins d'opportunités agiles, rapides pour pouvoir bouger, donc c'est d'où l'importance d'avoir des services de proximité puis de pouvoir en parler justement pour que les gens puissent chercher de l'aide. Par exemple, quelqu'un, nous, on a des gens qui nous appellent à l'office et ils disent « Moi, j'ai une situation, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut m'expliquer comment agir, oui. peut m'accompagner là-dedans? » Puis l'office va faire un bout, va orienter vers la bonne ressource. Mais il faut absolument que les gens comprennent que la situation de violence, faut pas regarder sous la logique qui est coupable, qui n'est pas coupable. Il faut se sortir de la situation de violence, il faut chercher de l'aide pour essayer de toujours être en contrôle de sa vie.
Oui, et ça devient difficile, comme vous avez dit, au niveau de la logistique, particulièrement parce que souvent on est dépendant de notre conjoint, de la personne de la famille, comme du proche aidant au niveau des soins personnels, au niveau des déplacements, au niveau de toutes sortes de choses, ce qui fait que de quitter au milieu de la nuit, hein, c'est pas aussi facile que pour quelqu'un d'autre. C'est pas facile pour personne, évidemment. Mais quand c'est une personne de la famille qui conduit notre voiture, quand c'est elle qui nous donne notre douche, on peut s'imaginer à quel point partir à la va-vite là, sans lui dire, c'est quelque chose qui demande énormément de préparation. Là.
Oui, puis il y a deux choses. Il faut, soit qu'on a de la préparation ou on est dans la précipitation, puis là, on vit énormément de stress. Donc, moi, le message que, puis c'est pas, le message que je veux envoyer, c'est pas la réponse à tout, là, mais c'est une des voies importantes à faire. Quand on pense vivre une situation où ça semble se dégrader, il faut aller chercher de l'aide.
Oui.
Premièrement, parce qu'en allant chercher de l'aide, vous allez peut-être pouvoir agir en amont et éviter la dégradation ultime qui va faire que vous allez devoir fuir. Donc, il y a peut-être moyen d'agir en amont. Sinon, il y a moyen, en parlant, de préparer l'aide qu'on aura besoin si on doit quitter le lieu. Donc, moi, le premier message, c'est de dire « parlez-en ». Deuxième message, c'est de dire « bravo à des initiatives comme la vôtre ». De pouvoir, dans le fond, porter la parole de dire aux gens, ben écoutez, c'est quelque chose d'humain, vécu par des humains, puis il y a des solutions, il faut en parler, puis il faut se solidariser.
Et vous faites bien de mentionner qu'il y a des ressources qui existent. Évidemment, là, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l'OPHQ est là. Il y a aussi des ressources communautaires dans les villes. Donc, il faut malheureusement là, faire des coups de téléphone et trouver... la bonne ressource qui est prête à nous aider, mais je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés puis que si eux peuvent pas vous aider, ils vont vous référer aux bonnes personnes et ils vont trouver de l'aide pour vous. Là. Donc, l'important, comme vous le dites, c'est vraiment de demander de l'aide puis de dénoncer la situation. Souvent, on n'ose pas en parler, mais c'est pas la chose à faire. Là.
Oui, c'est ça. Puis d'encourager des initiatives, je pense à la Fondation Saputo qui a mis 1,7 million il n'y a pas longtemps, là, la Fondation Mirella et
oui.
Saputo, pour les 29 maisons d'hébergement en situation de violence conjugale. C'est un réseau qui fait un travail formidable. Je n'ai pas besoin de défendre ce réseau-là, mais de réussir à adapter les lieux. Parce que vous savez, c'est tout un défi. Hein. Vous êtes dans une maison pour femmes violentées, c'est un endroit qui doit être anonyme. On ne peut pas oui. mettre une affiche devant la maison. Donc, si je mets une rampe d'accès dans un quartier résidentiel, il faut que ça fasse sens. Il
y a oui, toutes des défis. Oui, bien, forcément.
On n'est pas obligé. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention dans la critique qu'on pourrait avoir envers ces ressources-là qui font leur maximum, puis ça coûte des sous. Mais il y a des initiatives qui sont en train de bouger et il y a des ressources spécialisées qui peuvent donner de l'aide. Des fois, ça peut prendre du temps, mais il faut maintenir, je pense, cette vision-là d'aller chercher de l'aide. pour maintenir aussi la vision de demander au gouvernement des améliorations dans l'autonomie des personnes handicapées. Quand je parlais de l'histoire des chèques, c'est important, ça, que oui. les personnes puissent être maîtres de leur autonomie financière. Ça existe dans d'autres programmes qu'il y a des enjeux à faire bouger. Ben, il faut faire ces revendications-là aussi. On appuie le milieu communautaire pour aller dans ce sens-là. On demande au gouvernement, nous, on est la partie du gouvernement, on fait partie de ceux qui décident. Donc, nous, on essaie de réfléchir, de changer notre approche pour l'adapter le mieux possible.
Vous l'avez dit, hein, les centres communautaires et maisons pour femmes violentées ont très peu de ressources et en même temps, le gouvernement le coupe beaucoup dans les ressources pour les personnes en situation de handicap. Dans les dernières semaines, on a vu beaucoup de coupures qui ont été faites par les gouvernements fédéraux et provinciaux. Et ça, ben forcément, là, ça tourne un couteau dans la pièce. C'est-à-dire qu'une personne qui a des difficultés à trouver un travail, qui n'est pas autonome financièrement, qui n'a pas de soins à domicile parce que les soins à domicile sont coupés, donc qui doivent être dépendant d'un membre de famille pour les soins à domicile qui n'ont pas de logement adapté puis qu'il n'y a pas de moyen de trouver un logement adapté rapidement. Toutes ces questions-là font en sorte que ces personnes-là sont dépendantes de plus en plus. Donc, on ne va pas dans le bon sens au niveau du financement des personnes en situation de handicap.
Et on est en train de travailler, nous, à une réflexion. Tu sais. Si on regarde les personnes sans incapacité, si je coupe des activités de maintien à domicile, d'adaptation, de rénovation dans un logement, ça a moins d'impact pour des personnes avec des incapacités parce que, par exemple, si je ne suis pas capable d'adapter le milieu de vie d'une personne handicapée, je ne serais pas capable de la garder dans le milieu, je vais peut-être éventuellement obligé de la placer. Et ça, ça coûte plus cher à l'État.
Oui.
Donc, nous, le travail qu'on est en train de faire actuellement avec le ministre Carman, c'est d'instaurer une espèce de réflexion pour illustrer qu'il y a des endroits où il ne faut pas couper parce que ça va coûter plus cher à l'État en bout de piste. Il y a des endroits qu'il faut investir. Et là où est-ce qu'il faut couper dans des services qui répondent moins aux besoins des personnes handicapées puis qui apportent une réponse beaucoup trop lourde. Je pense on n'a pas besoin de développer énormément de places en CHSLD, mais on devrait développer beaucoup plus de services dans la communauté qui répondent aux besoins exprimés par les personnes handicapées. Je dis pas que personne ne devrait être placé en CHSLD.
Non, c'est pas ça.
Mais ceux qui le demandent devraient l'être, mais ceux qui ne veulent pas, on devrait respecter. Donc, vous avez raison, le gouvernement a des choix, coupe certaines marges de manœuvre pour être capable d'équilibrer le budget. Maintenant, nous, notre travail comme office, parce qu'on est un organisme horizontal, on est capable de voir l'impact d'un programme versus un autre. Exemple, le maintien à domicile versus l'adaptation à domicile, on est capable de voir l'impact. Si je coupe le transport adapté, on est capable de voir l'impact sur l'éducation puis sur l'emploi. Bien là, il faut développer cette vision-là horizontale puis de défendre aux yeux des décideurs l'enjeu de faire attention, de ne pas augmenter la couverture de services, de ne pas augmenter la non-atteinte de la couverture de services auprès des personnes handicapées, parce qu'il y a un effet domino qui est très rapide.
Et vous le dites, hein, ça coûterait moins cher. Ils veulent couper des coûts, mais dans les faits, ça coupe pas de coûts. Donc, il faudrait, je sais pas là, si vous avez le numéro de téléphone de M. Carman, puis que vous pouvez lui donner les chiffres là, j'en serais très heureuse parce qu'on dirait que visiblement là, on n'a pas le même fichier Excel là, au niveau du gouvernement, parce que c'est quelque chose qui ne semble pas voir dans les faits. On sauve pas d'argent en faisant ça, c'est bien pire.
Oui, puis l'idée, puis moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec M. Carman, lui, ce qui m'a donné comme mandat, puis qu'il a donné à mes collègues de la santé, c'est de développer le plus possible de ressources dans la communauté, ressources qui partent d'initiatives, des fois communautaires, des fois d'initiatives citoyennes, de différentes initiatives. Et dans le fond, l'idée, c'est que si on a un contexte budgétaire actuellement qui est difficile, celui qu'on connaît. Okay? On peut pas fermer les yeux de ce lien-là. OK? On a deux choix. Soit on amène tout le monde vers des ressources plus lourdes, les CHSLD, où on se dit on va développer dans la communauté. Mais pour développer dans la communauté, ça prend des promoteurs, ça prend une organisation, il faut stimuler ça. Donc, l'enjeu à l'heure actuelle, on a un budget qui vient d'être déposé. Maintenant, on a une vision des capacités financières pour la prochaine année. Là, il faut être créatif. Dans la prochaine année, il faut tout faire pour pointer les projets qui me permettraient de faire une économie plus d'échelle. Exemple, oui. Si j'investis 1 million dans une ressource dans la communauté, mais que je sauve 5 millions en service plus lourd, puis que les citoyens sont quand même desservis de la bonne façon, puis encore plus dans leur communauté, bien là, tout le monde est gagnant. Ça, c'est le travail qu'il faut faire. Le oui. ministre, quel qu'il soit, là, ultimement, c'est pas son travail de trouver ces solutions-là. Il va mandater les machines, donc moi, j'en fais partie. Donc, c'est nous pour monter les manches là, maintenant, puis il faut trouver. On a un défi. On a un défi qui n'est pas facile, mais si on ne le fait pas, personne ne va le faire.
Oui, voilà. Donc, je suis contente que vous mettiez au travail parce qu'il y a un gros travail à faire. Mais au moins, on voit effectivement que on est à bonne vision des choses. On va dans le bon, on va du bon côté là, si on regarde ça de cette façon-là.
Oui.
Monsieur Daniel Jean, vous êtes directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Merci beaucoup de votre travail et on vous souhaite une bonne continuation dans les projets malgré la situation là, financière du Québec qui est difficile.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup. Bonne journée.